Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le samedi 11 mai, vous écoutez Flash sur le monde par Elise Bock. Et on va encore parler, je sais pas, de l'actualité, de... Je sais plus de quoi parler en fait, parce que le monde est dans un état chaotique. Et qui n'encourage pas beaucoup la réflexion. Je dirais même que c'est déprimant parfois, et quand on déprime, il vaut mieux ne pas parler, parce que c'est pas vraiment très intéressant. Bon, j'ai suivi récemment une émission, un post de Charles Gave, quelqu'un qui fait des posts très intéressants sur le net et qui dit qu'il est économiste. En fait, à un moment donné, lorsque vous avez fait, avec l'expérience de la vie, avec des études si possible, et avec la curiosité beaucoup, l'analyse, la réflexion, vous êtes économiste, comme vous pouvez être politologue, comme vous pouvez être... tout ce que vous voulez, sociologue, tout dépend de l'angle par lequel vous envisagez le problème. Et donc, il a parlé de la démographie. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai entendu les études sur la démographie, j'avais une conception très statique. Oui, la population va augmenter de tant pour cent ou ne pas augmenter. Il y aura probablement plus de retraités que d'actifs, des choses comme ça qui sont mécaniques et qui vous parlent, mais sans plus. Et là, lui, il a vraiment repositionné la chose dans sa dimension, j'allais dire, prévisionnelle, prospective. Et il a dit qu'à l'époque, lorsque cette science est sortie, je ne sais plus le nom de qui le démographe, je ne vais pas le dire là parce que je risque de me tromper. Et il avait dit qu'il fallait vraiment faire attention à ça parce que c'était le processus par lequel l'humanité se remplaçait elle-même. Ah oui, ça devenait intéressant, l'humanité se remplaçait, mais comment? Alors, il a expliqué que lorsqu'une femme fait un enfant, en fait, un enfant, elle se reproduit elle-même, elle se remplace elle-même. Deux enfants, elle remplace le couple, si elle est en couple, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident, et ainsi de suite. Donc, il était important, au moins, qu'en couple, les gens aient deux enfants, comme ça, on sait que ça remplace les deux travailleurs, parce que c'est l'économie, on n'est jamais très loin. Et la population peut avancer comme cela, en se reproduisant et en ne perdant pas trop. Alors, j'ai pensé à tout ce qu'on dit souvent en France sur, oui, les Français, ils accouchent un enfant et demi, je ne sais pas trop, des choses pareilles. Alors, on cherche bien, ou deux enfants et demi, comment ça peut être comment je vais dire, quand vous pouvez projeter cela dans l'espace et dans la durée, vous voyez pas très bien. Alors moi, j'ai repensé à l'Afrique. C'est vrai que ici, en Afrique, moi, quand j'ai grandi, j'avais constaté que lorsque... Moi, je prends mon cas. Alors, ma maman, elle a fait beaucoup d'enfants. Nous étions 13. Malheureusement, on en a perdu 4. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la tradition, telle que j'ai observé un peu, les parents commencent par reproduire leurs propres parents. Ça veut dire que moi, en tant qu'aîné de la famille, je suis la mère de mon père. Mon petit frère, par la suite, c'est le père de mon père, parce que vous savez, les hommes sont très égoïstes. On commence par le père, les grands-parents paternels. Ensuite, ceux qui ont suivi, c'est une chance aussi, garçon-fille, ce sont les grands-parents côté maternel. Et ensuite, on peut honorer un aïeul, ça c'est une petite sœur. On peut aussi honorer, comment j'allais dire, quelqu'un dans la famille, c'est-à-dire le grand frère. Le grand frère de mon père, il a été, on l'a remplacé, il a déjà sa succession. Malheureusement, elle est décédée récemment. Ensuite, les parents eux-mêmes, c'est-à-dire ma mère. Et puis, nous étions nombreux, hein, donc 13, il y a la place pour remplacer les gens. Puis, mon père. Puis, chose curieuse, quand les femmes accouchaient en Afrique, qu'est-ce qui se passait? C'est pas très loin, c'est pas un passé lointain, hein, parce que plus loin, ça ferait encore. C'est autre chose, c'est pas loin. Donc, moi, j'ai eu une ou deux tantes qui sont venues accoucher, qui sont venues, pardon, aider ma maman au moment de l'accouchement. C'est-à-dire qu'elles viennent passer 2 ou 3 mois, des tantes, les femmes du grand frère à mon père, elles viennent passer 2 ou 3 mois, le temps que la femme enceinte, c'est elle qui, donc, au début, vont lui faire son bain, donner le bain à l'enfant, donner le bain à la maman. Aider aux travaux ménagers parce que la maman doit se reposer. Il y a même dans certaines familles africaines où la femme va carrément aller dans son village, enfin son village, dans sa famille, pardon, chez sa maman pour qu'elle s'en occupe. Alors ces tantes-là, c'était un coup de chance quand elles sont venues. Maman, il n'y avait pas d'échographie. Bon, maman a fait des filles. Et forcément, c'est ces tantes-là qui étaient remplacées, donc on donnait le nom de ces tantes-là. Il y a une tante Sarah, une tante Jeanne, on a donné Jeannette, des choses comme ça. Et donc les noms, c'est aussi le biais par lequel les noms se reproduisent, se perpétuent en fait. Quand on vous remplace, on donne le même nom. Et j'ai un petit frère, c'est Moïse. Mais ça, c'était une relation particulière parce que mon papa a été nommé dans une ville comme sous-préfet maire. Et à l'époque, il y avait un maire déjà et il se sentait très frustré. Et papa l'a adopté un peu pour le calmer un peu. C'est le gouvernement qui a fait, hein. Et ce monsieur, il était toujours avec nous. Il était célibataire en plus. Il avait un certain âge. Et on était devenu une famille. Donc. J'ai oublié le nom de famille de ce monsieur, mais voilà, il s'appelait, il se prénommait Moïse. J'ai un petit frère qui s'appelle Moïse par rapport à cela aussi. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, on n'avait pas pensé, en faisant cela, qu'il y aurait un problème de démographie. La seule fois qu'on a pensé problème de démographie en Afrique, c'est quand on pensait au travail des champs. Travail des champs, et on se disait, oh, on a besoin de main-d'œuvre en fait. On pensait démographie par rapport à la main-d'œuvre. Et là, ou par rapport aussi à la défense du village, donc par rapport aux combattants, aux lutteurs, hein, comme on voit au Sénégal. Et là, après, par la suite, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, bah oui, en fait, dans la démographie, par rapport à ce que je viens de dire sur les lutteurs, les défenseurs territoire, on protège la lignée. C'est-à-dire, on n'a pas très bien vu que dans la démographie, la valeur clé, c'était la famille, en fait. C'est la famille qu'on protégeait, sans le dire. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'on peut avoir été économiste et puis arriver à envisager les choses sur cet angle-là, sociologique, on protégeait la famille, enfin, ou plutôt c'est la famille qui se renforçait par cette ossature-là. En se reproduisant déjà elle-même, le père, la mère, et puis les grands-parents, et puis tout ce que je vous ai cité. Et c'est donc fondamental parce que protégeant la famille, on protège l'humanité, bien sûr, on protège la lignée, bien sûr, on protège même le territoire, bien sûr, et surtout, on a des repères. Alors, on a des repères par lesquels on avance, on a une mémoire, on a une identité. Et toutes ces choses-là, vous verrez que aujourd'hui, la société d'aujourd'hui récuse cela. Et ce n'est pas un paradoxe ou un hasard que justement la famille soit l'ennemi de ce New World Order aujourd'hui, parce que La famille dans la démographie, c'est la famille qui est comme ça, comment je vais dire, qui jaillit en fait du projet humain. Et ça dérange ceux qui sont pour les frontières, les sans-frontières, ceux qui sont pour la désidentification des gens, ceux qui sont pour dessoucher même les gens. Et vous savez, quand on dessouche les gens, on les désidentifie, on les, quelque part, on les désincarne parce que ils ne sont plus rattachés à... C'est pas le sang. Vous voyez, c'est plus loin que cela. Ils sont plus rattachés à rien, les noms disparaissent, la mémoire des noms, c'était aussi la mémoire de la famille, la mémoire du territoire, vous voyez, tout ça disparaît. On arrive comme ça à créer un magma aujourd'hui où vous voyez aux États-Unis les gens, cette horde d'immigrés, c'est même plus les immigrés, c'est même pas des envahisseurs, c'est un truc incompréhensible qui entrait comme ça, comme dans une passoire. Et le but étant quoi? Étant que le projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, la démographie, n'étant plus arrimé à la famille, mais sorti du projet, déconnecté plutôt du projet familial, où c'est plus la famille qui mène cette démographie, mais c'est plutôt autre chose, c'est-à-dire des arrivées comme ça, et les LGBT bien sûr, qui se greffent là-dessus, tout ça crée cette nouvelle société qu'ils veulent bâtir sans identité. Sans, je sais plus, ça n'a même pas de, ça pas de nom parce que cette société qu'on va bâtir, vous voyez les Mexicains, ils entrent, tout entre, on désaffilie tout le monde, on ne sait plus demain qui se marie avec qui, on dessouche tout le monde avec un projet bien spécifique, c'est d'affaiblir les gens. Il faut affaiblir les gens parce que quand vous n'avez plus de repères, vous n'êtes plus connecté au sol et à la terre, on parlait du territoire tout à l'heure, vous êtes déterritorialisé par rapport à votre corps, par rapport à votre famille, par rapport à votre communauté. C'est un nouveau type d'humanisme qui se met alors que les études sur la démographie n'avaient pas l'air comme ça. Hein, parce qu'après, on va vous amener des statistiques qui vont vous embrouiller. Mais en fait, c'était... quasi religieux, cette démographie. Et aujourd'hui, on remplace par le non-religieux, par tout ce que vous connaissez, et par autant on peut faire venir par le Texas tout ce que vous voulez comme immigrés qui viennent, on ne sait plus d'où, de par des, par-ci, par-là. Autant Monsieur Netanyahou peut tuer autant de Palestiniens qu'il veut détruire Gaza. C'est la même chose, c'est le même processus. Gaza. Ça gêne parce que Gaza, c'est une identité persistante, têtue, qui ne veut pas disparaître. Donc il faut faire disparaître cela pour remplacer par autre chose. Alors, on a une chance inouïe parce que vous chassez une chose par la porte, elle revient par la fenêtre. On a voulu, on essaie d'instaurer cela, mais parce que Biden aussi, derrière, il a un plan diabolique, hein, c'est que tous ces immigrés vont devenir des électeurs pour la gauche, enfin pour les démocrates, parce qu'ils sont devenus les rois de la triche électorale, mais ça n'a plus, je veux dire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde, de l'humanité, sauf peut-être l'histoire cachée. Alors, aujourd'hui, les étudiants ont repris les choses. Voilà, c'était inattendu. Harvard, oh là, le sein des saints, Columbia, oh là, et puis toutes ces Stanford, même au niveau, j'allais dire européen, les universités, les étudiants s'insurgent contre cela parce que aussi à l'université, on a voulu faire ce lavage de cerveau pour faire en sorte que les étudiants ne soient plus, en fait, que l'université ne soit même plus un corps. Parce que l'étudiant à l'université, dans une université américaine sponsorisée par un milliardaire, d'origine israélienne qui a plein de sous, poser comme condition que vous soyez très bien comme il faut, c'est-à-dire vous portiez pas la critique sur Israël. C'était imposé ça aux universités. Et cette façon de faire faisait que les étudiants ne savaient plus très bien s'il fallait penser librement, s'il fallait suivre l'académie ou s'il fallait la suivre, mais en étant borné par toutes ces restrictions extérieures qui viennent limiter carrément la nature même de ce que c'est que la discipline académique à l'université de surcroît et la nature même des études universitaires où on est supposé former des libres penseurs. Pensez-vous de ces libres penseurs, on n'en veut plus. Parce que si vous critiquez Israël, vous êtes caractérisé, on appelle ça mob, antisémite, brigand, un peu comme des voyous de les casseurs hein, de banlieue, c'est comme ça qu'on vous appelle. Et si vous êtes pro-israélien, ben vous êtes très bien, vous êtes très bien. Mais sauf que dans la famille, on va toujours le dire, c'est un projet de vie, hein, c'est pas un projet de mort ou de destruction. La famille doit se reproduire, la famille doit avancer, la famille ne peut pas se bâtir sur la mort. Sinon, elle s'annule elle-même. C'est ça le projet familial. Et le projet qu'on a, qui propose d'encourager, de soutenir une idéologie de la mort, ça ne peut pas aller de la destruction. Et d'ailleurs, la guerre Israël, enfin la guerre, le bombardement d'Israël continue sur Gaza, enfin d'Israël, je ne sais plus quoi dire sur la Palestine. Ah, quelque chose de particulier, c'est que on voit pas les soldats du Hamas hein, tués. On voit pas les soldats israéliens tués. Ce qu'on voit, c'est les populations qui souffrent. Et c'est volontaire, c'est les morts des enfants, les morts des charniers et tout, c'est volontaire parce que tout ça, c'est pour donner un coup psychologique, pour déstabiliser encore plus. Alors, si vous n'avez pas de repère, vous voyez un peu les coups que vous prenez. Donc, on revient à l'identité, c'est l'identité qui vous donne des repères et qui vous donne de la force. Si vous n'avez pas cette souche identitaire en vous, vous pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister aux ouragans, à tout ce qui vient, à tout va. Non, 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 l'identité, ça vous donne des repères, ça vous donne une vision. Et Jésus disait, je suis le chemin. Je ne veux pas de public, hein, mais quand on dit je suis le chemin, la vérité et la vie, moi je vois le chemin, c'est encore plus fort que la vérité et la vie. Donc l'identité, c'est ça, c'est un chemin, c'est un cheminement. Et dans lequel, franchement, si vous faites, je sais pas quelqu'un avec les identités meurtrières, je sais plus, mais c'est ça vient de la démographie et on n'a pas bien saisi toute la portée de cette révolution démographique. On a plutôt vu quelque chose de très économique, très mécanique, parce que ça arrangeait tout le monde. Alors, Monsieur Biden. Il ne peut pas échapper, hein, il veut se refaire une santé. Devant les bombardements vraiment devenus sauvages, erratiques, parce que M. Netanyahou dit qu'il continuera à bombarder tant qu'il n'aura pas éradiqué tout le Hamas. Le Hamas, on ne voit jamais un soldat. Bon, on ne sait pas à quel moment ils vont arrêter, parce qu'on n'aura pas vu le nombre de morts de soldats pour savoir si ça lui suffit. Et puis devant les sondages déjà bien trafiqués qui montrent que Joe Biden, les chances sont limitées, il a été obligé de dire que bah, il ne va pas envoyer des armes à M. Netanyahou pour qu'il continue son carnage. Non, il ne va pas, il ne va pas. M. Netanyahou a beaucoup rigolé parce que c'est... On va pas le dire comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que entre ce que M. Biden dit, et ce qui va se faire par le deep state que vous connaissez bien, le deep state, l'État dans l'État, le Pentagone, la CIA, l'OTAN, vous savez très bien qu'on aura beau dire que on ne donne pas les armes à Israël, on le dit comme, mais en fait, en vrai, on va les donner, on va les lui donner, et Israël va continuer à faire ce qu'il fait. Donc, M. Biden est dans une caricature de la désidentification qui est terrible parce que lui déjà avec son âge mon Dieu c'est pas possible qu'il soit un adepte du génocide non c'est avec son âge on comprend pas et en plus de ça on voit qu'il met en œuvre parce qu'il faut protéger cette conception du monde hein, il met en œuvre tout ce qu'il peut pour torpiller Trump. On le bloque là depuis 2 semaines, il est dans un tribunal à New York, c'est pas trop pour une affaire sexuelle, etc. Mais moi, j'ai jamais vu, on n'a jamais vu dans la justice où un avocat peut pas représenter l'accusé. Il faut que l'accusé soit là, un ancien président de surcroît, assis là, à suivre les débats tous les jours au tribunal. Mais c'est juste pour l'humilier, comment je veux dire, le pousser à bout. Et avec cette histoire de la porno qui est venue étaler, je sais pas quoi, faire un déballage absolument obscène. Si Trump ne savait pas qui il était, il résisterait pas. Il ne résisterait pas un seul instant. Et d'ailleurs, quelqu'un a écrit aujourd'hui, c'est pour moi un juriste, un analyste, qui disait, mais cette histoire consistant à dire que M. Trump aurait trompé les électeurs en cachant, en achetant le silence d'une ex-actrice du porno, c'est un peu tiré par les cheveux, parce que de toute façon, même si Trump n'allait pas aux élections, lui, en tant qu'homme public, qu'on connaît, le milliardaire, le bâtisseur, il aurait fait la même chose. Donc, du coup, c'est même pas un problème juridique, c'est un problème humain, comme ça, normal. Donc, M. Trump, il subit ça, et il n'y a que les étudiants pour le soutenir, parce que tous les autres ont été perturbés depuis par le LGBT, qui a fait passer les personnes qui sont pour la famille pour des ringardes. Puis il y a des sanctions derrière, hein, si vous ne suivez pas. Il y a ceux qui sponsorisent l'université aux États-Unis qui ont dit, ah ben on prend les noms, hein, et demain ne vous en faites pas, ne vous gênez, ne vous présentez même pas, ne présentez pas votre candidature parce que vous ne serez pas embauché, parce que c'est les mêmes qui ont aussi, qui sont détenteurs des sociétés. Donc nous avons cette histoire d'identité. Qui est un véritable problème. Et cette histoire de la famille, si on détruit la famille, vous voyez un peu tous les ravages que ça va créer dans la société, ça sera terrible. Et surtout, l'affaiblissement, la destruction de l'homme en ce qu'il a de plus profond en lui-même. Et si ça va être vertigineux, cette chute. Donc il faut s'accrocher à la démographie, mais pas seulement au sens mécanique, mais vraiment dans le sens anthropologique, comme on l'a dit, et ethnologique aussi, si on veut. Et donc, donner du sens au mot, donner du sens aux choses, c'est terrible. Alors, Monsieur Biden, on va pas continuer parce que tout ce qu'il fait pour gagner cette élection, c'est horrible. On a même soupçonné le fait qu'en fait, il n'irait pas jusqu'au bout, qu'il va jouer comme ça, et puis il y aura la convention, il va dire finalement qu'il peut pas, il se sent pas bien, je sais pas trop, il y aura une excuse, et on fera. Les grands électeurs voteront quelqu'un d'autre qu'on va imposer au peuple américain, probablement le gouverneur de la Californie, qui est le mieux placé pour cela. Et puis, parce que Michelle Obama, il peut pas, il y a des problèmes de transgendérisme, je sais pas, bon, laissons tomber, les choses passent pas net. Et je ne sais pas pourquoi Michelle Obama, c'est une horreur de penser à ça, parce qu'Obama était déjà là, on dit de Biden que c'est un Obama 3, alors si Michelle Obama arrive, ça fait Michelle Obama 4, bon, c'est la folie, on vous parle démocratie et tout et tout. Non, il faut que les gens retrouvent cette fibre révolutionnaire qui ne peut arriver que parce qu'il faut résister au mal, il faut résister aux abus de pouvoir, il faut résister à toutes ces magouilles qui sont imposées aux gens comme ça, et il faut surtout résister à la liquidation de la famille parce que ça, ce n'est pas possible. Donc on va terminer sur la famille avec le président du Sénégal. Notre ami, j'oublie son nom. Hein. Je retiens plus, je vais pas redire là pour ne pas me tromper. Et il s'est présenté la deux épouses. Bon. On dit rien. Et il est allé, avant d'aller rendre visite à Laurent Gbagbo, c'est symbolique parce que Laurent Gbagbo, il avait reçu deux épouses, mais surtout Laurent Gbagbo, il a été 7 ans au tribunal, à la Cour pénale internationale, pour rien, incarcéré. Donc ça montre déjà que. Et Gbagbo était incarcéré. Pourquoi? Parce qu'il a voulu créer une monnaie ivoirienne. Et ça, avant l'heure, c'était un peu le projet de Kadhafi. Mais Kadhafi, c'était en puissance continentale. Alors que Gbagbo, lui, le faisait déjà pour la Côte d'Ivoire, qui était asphyxiée par les prix très bas du cacao. Et d'ailleurs, c'est bizarre, c'est marrant, cette année, le cacao a fait un saut prodigieux parce que justement, en Côte d'Ivoire, cette histoire de prix de cacao trop bas aurait découragé des producteurs qui se sont lancés dans d'autres filières et ont un peu abandonné, certains auraient même détruit. Bon, c'est ça, vous voyez, quand on ne résiste pas assez ou quand on veut résister et puis il y a ceux qui sont, comme par hasard, le LGBT transfrontalier qui s'accompagne toujours avec des pulsions, la pulsion de mort, de destruction et de réesclavagisation de l'autre. Donc, monsieur Bassouri, allez le voir, ça nous donne. C'est Bassouri, sinon je me trompe pas. Il a un nouveau président au Sénégal, il faut que je retienne son nom. Il allait le voir et c'est très fort comme acte parce que déjà c'est anti-système. Ce système avec lequel il faut absolument se déconnecter pour se reconnecter justement à la valeur première, qui est la famille, qui est l'identité, qui est le territoire, qui est le corps. Il ne faut pas se sortir de son corps et se mettre à flotter dans un no man's land non identifié et qui ne produit pas grand-chose, sauf que des espèces de bulles. Et puis, non, c'est ça l'intelligence artificielle en fait, c'est quelque chose d'horrible. Bon, Monsieur Bassouri a fait quelque chose de très important. Il a demandé, quand il est arrivé, il a revu des politiques publiques, hein, une sorte d'audit. Et quand on lui sort ça, entre autres, on a constaté qu'il y avait 1200 environ fonctionnaires fictifs dans l'État, le gouvernement sénégalais, et ça représente des sommes folles. Et c'est pas que le Sénégal qui fait ça. C'est pas que le Sénégal. Moi, je sais qu'ici au Cameroun, je sais aussi qu'en République centrafricaine et au Congo, pour l'avoir vu quand j'étais en France. Quand je dis quand j'étais en France, bon, je suis pas parti de la France, hein. Je suis en exil en ce moment. Quand j'étais en France, je veux dire, c'est quand je m'occupais de toutes ces histoires-là de sans-papiers, de sociologie, des étrangers. Beaucoup sont en France et ils sont toujours fonctionnaires chez eux. Ils perçoivent leur salaire régulièrement sur leur compte, mais fonctionnaires fictifs. Ici même au Cameroun, on a dit qu'on avait purgé le listing et tout. Que nenni! Que nenni! Les gens perçoivent leur salaire ad vitam aeternam. Je sais même pas. Et puis après, c'est les retraites. C'est un système de fraude monstrueux qu'on attaque, auquel on s'attaque pas. Auquel on s'attaque pas, c'est. Si. Je ne sais pas comment dire, c'est des vaches sacrées, on ne parle pas de ça, ni les journalistes, ni les médias, ni ah, les ministres encore moins, ni personne n'en parle. Et on a tous ces trous dans la gouvernance qui, bon, ça rien, c'est pas l'identité, mais quoique, encore que, parce que quand on vient à ce problème de la double nationalité, qui fait problème ici un peu, pas un peu, mais beaucoup, il faut savoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas combattre ce que vous appelez les binationaux, c'est excessif, et les combattre alors qu'en même temps, vous payez des fonctionnaires fictifs. Mais si, c'est quelque chose d'hallucinant, on a des dérives. Alors, je ne sais pas si. Pour revenir au topo de cette émission, qui est la démographie. Si la science démographique s'en sort avec ça, parce que avec du personnel fictif, c'est des études démographiques qui sont pas correctes, qui sont pas du tout correctes. C'est du n'importe quoi. Alors, vous voyez. Bon, évidemment, l'Afrique ne peut pas continuer à faire 10, 12 enfants, c'est évident. Mais disons aussi que quand elle les faisait, c'est dans l'optique que je vous ai dit, parce que Bill Gates semblait dire, oh, il se multiplie trop. On ne se multipliait pas par hasard. Voilà, déjà, ça, c'est très important de le dire. On se multipliait. Il y avait un projet derrière qui était très humaniste, qui était très intégré à la reproduction de la cellule familiale et même de la communauté. Même, c'était très profond. comme façon de faire. Dans la reproduction, c'était pas l'Afrique qui a rattrapé son retard comme ça démographique. C'était pas du tout lié, c'est pas une forme de sexualité sauvage. Bon, c'est vrai que le bon, ça c'est autre chose, on va parler de ça. Mais il y avait aussi accolé à cette sexualité, vraiment cette sainteté de la famille. Vous voyez, il n'y a aucun enfant qui peut se sentir vraiment bâtard, comme on dit, parce que ceux qui, bon, il y en a qui sont affiliés à rien, bon, ça c'est dommage, mais la plupart des enfants ont ce double qu'ils ont vu vivant, ou qu'ils n'ont pas vu, mais qui savent qu'il existait. Vous voyez, c'est très très bien, ça fait du bien, ça conforte, ça c'est oh, c'est instinctif, hein. On ne peut pas le traduire en intelligence, ces choses-là, c'est au niveau de l'instinct. Et moi, j'ai retenu un terme ces jours-ci en parcourant deux ou trois pages de Bersonne sur le bersonnisme, qui parle des sympathies divinatoires, c'est-à-dire que, ou divines, vous arrivez à un moment donné, à travers cela, à vous connecter avec l'harmonie de l'univers. Vous voyez, avec le cosmos, avec la musique, je veux dire de la terre et de l'eau. C'est ça en fait. On va parler de spiritualité, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a dit, j'ai lu quelque part aussi que Freud avait dit que l'animisme était la forme religieuse la plus avancée, parce qu'avec l'animisme, on retrouve Dieu dans chaque objet de la nature. Chaque objet de la nature est une reproduction de Dieu. Voyez? Donc, parce que Dieu, c'est un repère. Et la démographie, on avait oublié que c'était une question de repère et que sans ce repère-là, je ne sais pas, avec tous ces gens qui sont entrés du Texas et tout, bah, je ne sais pas qu'ils vont être les. Je sais pas, les études démographiques vont s'affoler, vont devenir la folie. C'est un monde chamboulé. Je vous laisse sur cette note-là parce qu'il n'y a pas d'autre note en ce moment. Et je vous dis, vous avez écouté Radio Silence, Flash sur le monde par Elise Mbok. Et à bientôt!